samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Amir pour la sortie de son nouveau single « On dirait », extrait de l'album « Au cœur de moi ».
On dira ce qu'on voudra, moi le samedi, ça me fait quand même plaisir d'être là, à MFM Radio, d'être avec vous. C'est le deuxième samedi, puisque la semaine dernière, nous étions déjà ensemble. Et là, mon invité, vous êtes bien prêt, là, dans une voiture, je ne sais pas, chez vous, en train de faire le ménage, n'importe quoi. Arrêtez pendant une heure, on est tranquille, on se pose. Car il y a Amir.
C'est parti.
C'est très simple, il y a des mots, évidemment, qui vont défiler sur une tablette. C'est vous qui allez faire défiler ces mots. À partir de ces mots, moi, je dois faire des questions, mais surtout, ce n'est pas tellement les questions qui sont importantes, ce sont vos réponses. Le premier, il est devant vous. Après, vous sliderez, mais le premier, donc, c'est Eurovision. On va vite passer là-dessus, parce qu'on en a tellement parlé. Est-ce qu'il y aura eu avant et après ?
Absolument. Que ce soit en termes de ma notoriété, ce qui est visible, je pense... pour tout le monde, mais je pense qu'il y a un avant et un après aussi. Pour moi, personnellement, la personne que j'étais, la personne que je suis aujourd'hui, j'ai tellement été bouleversé par ma profession, positivement, hein, et appris un tas de choses qui m'ont permis d'être aujourd'hui quelqu'un, de plus sûr de lui dans sa démarche professionnelle, et de beaucoup plus entier, plus heureux avec ce que je fais.
Vous étiez entraîné à être artiste ? Est-ce que vous étiez entraîné à être star ? Est-ce que vous étiez entraîné à être au devant de la scène ?
Je préfère ne pas utiliser le mot star, mais oui, je me suis toujours conditionné dans ma tête à vouloir réussir dans ce que je faisais. Avant la musique, c'était la chirurgie dentaire. J'ai voulu aller au bout d'un parcours, mais le tout toujours en ayant cette volonté de le faire d'une manière un peu décalée, un peu différente, de ne pas rentrer trop dans la norme. Et j'étais content de pouvoir finir mon parcours scolaire à l'époque en étant un petit peu le trublion de la classe, mais qui arrive toujours d'une certaine manière à avoir des bonnes notes. Et aujourd'hui, dans la musique, j'ai l'impression que mon parcours n'est pas typique. Et ça me donne une certaine fierté supplémentaire, un amour de ce parcours parce qu'il est peut-être un peu inattendu. Il n'a pas été ficelé de la même façon que la plupart des artistes passés par l'Eurovision pour faire grandir une carrière. Aujourd'hui, en 2016, c'est pas exactement ce à quoi les gens s'attendent.
Donc l'Eurovision, c'est pas ringard, hein.
C'est absolument pas ringard, mais il fallait y croire. Ouais. Dès le premier jour, pour pouvoir amener aux gens un Eurovision qui leur plaise, pour les faire adhérer. Et c'était comme ça que je l'ai vu depuis le début, et je suis content que les gens m'ont cru.
On change de mot ? Allez, vous
allons-y.
Faites un petit slide.
Je passe... Oh.
C'est quoi ?
On vient d'en parler, le prochain mot c'est dentiste.
Bon, alors tiens, on n'en parle pas. Hop, on change. C'est comme ça, voilà.
Maintenant, Patrick. Patrick Sabatier.
Patrick. Ben, c'est quoi votre patrie ?
Ma patrie, c'est... j'ai pas envie de sortir un cliché, j'en ai deux, tout simplement. Je vais pas dire que je suis un enfant du monde, je suis un enfant de France et d'Israël. J'ai grandi entre ces deux pays avec un papa qui me parlait français, une maman qui me parlait hébreu, et un lit de part et d'autre de la Méditerranée. J'ai vraiment, vraiment partagé ma vie entre ces deux endroits, je me suis senti à la maison dans ces deux endroits.
Jamais déchiré ?
Jamais déchiré parce que ma perspective et celle dans laquelle j'ai été éduqué était de vivre pleinement les avantages de ces deux couleurs et pas ressentir le manque à chaque fois qu'on est dans un endroit. C'est pas quand je suis en France qu'Israël me manque ou quand je suis en Israël que la France me manque. C'était beaucoup plus être heureux de l'endroit où je suis et puis savoir que je peux toujours voyager et profiter de ma deuxième moitié quand je le veux.
On parle beaucoup, évidemment, trop malheureusement de communautarisme. Aujourd'hui, comment vous ressentez ça, vous ? Parce que justement, est-ce que vous êtes vous pouvez être un pont entre
deux
endroits ?
Je pense que absolument, j'ai cette opportunité énorme que j'essaye de saisir aussi au quotidien, de pouvoir rapprocher les cœurs et montrer qu'on peut être issu de différents pays, de différentes cultures, de différentes religions et vivre en une harmonie parfaite avec soi-même et avec les autres. Je dirais que le communautarisme est aussi un outil important pour que les gens puissent faire perdurer et valoriser leurs différences, ce qui est très important aussi. Mais il faut savoir le vivre en étant ouvert, en étant accueillant et en aimant partager nos richesses avec les autres.
On va marquer une première pause avec Amir, parce que quand on aime, on ne compte pas. Ça fait partie de l'album, ça s'appelle On dirait. On dirait quoi ?
On dirait qu'on a tous un ange. Et cette chanson, c'est la chanson qui pour moi exprime la reconnaissance de ce bonheur que j'ai la chance de vivre et qui dépend de tellement de personnes qui m'ont permis de le vivre.
Attendez, vous commencez à être énervant, vous aimez tout le monde?
C'est pas faux. Enfin, j'aime pas tout le monde, mais on parle de musique, donc naturellement je
non,
suis...
Non mais vous êtes tellement gentil.
Pourquoi ne pas l'être?
Est-ce que quelquefois c'est pas mal de se mettre en colère aussi?
Je sais pas, quand ça le mérite, quand il y a le besoin, oui, je pense que je me suis jamais empêché de me mettre en colère. C'est juste que chez moi, ça tient pas longtemps. Je préfère toujours essayer finalement d'apaiser les choses et de garder une bonne entente avec mon entourage.
Ok, on reste avec les anges.
Yes.
Midi 13h, Samedi Sabatier, l'interview sur MFM Radio.
C'est Amir, notre invité, votre invité. Alors hop, un autre mot Amir, tout à l'heure avant le disque on était avec Patrie, là c'est quoi?
Oh, vous êtes fort, vous avez choisi Lital. Lital c'est le nom de mon épouse.
Eh oui.
C'est une fille...
Donc ce serait pas par hasard.
C'est bien. C'est
donc
bien.
On a préparé l'émission. Vous l'avez rencontrée comment?
Je m'attendais pas à ce qu'on ait à parler d'elle, mais en fait Lital...
Mais excusez-moi, je complète la question et le mot. Est-ce que quand on parle d'elle, on parle... aussi un peu de vous?
Absolument, c'est ma moitié, c'est la fille avec qui je vis, certainement celle qui me connaît le mieux aujourd'hui, malgré les distances, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup plus à Tel Aviv qu'à Paris. Chacun de nous développe son destin professionnel ailleurs. Mais
alors la première fois que vous l'avez rencontrée, c'était où?
C'était une rencontre arrangée, une amie à elle qui était barman dans un bar où j'avais l'habitude de venir avec des filles avec qui je sortais. Et puis c'était une époque où j'étais très célibataire, donc je sortais souvent
avec beaucoup de filles.
Avec différentes filles. Et puis moi c'était le but de ma démarche naturellement. J'étais heureux de vivre comme ça. Je voulais pas avoir de relations sérieuses. Et cette fille là qui me servait à boire tous les soirs, tous les deux soirs, tous les trois soirs. Avait l'impression qu'en fait je cherchais mais je ne trouvais pas. Et elle s'est dit, si à chaque fois il tente et à chaque fois il vient avec une autre, essayons de lui présenter une fille qui pourrait lui aller comme un gant. Et c'est là qu'elle me dit, j'ai une copine, à mon avis c'est à moitié, elle te ressemble dans son tempérament et dans son caractère, je pense que vous pouvez bien aller ensemble. Je lui ai dit, écoute, je suis un célibataire heureux pour tout te dire, je cherche rien. Mais elle m'a dit, tu sais quoi, je t'envoie une photo et tu me diras après. Puis quand j'ai vu le visage de Lital, j'étais tout de suite convaincu qu'il faut qu'on se rencontre. Et depuis, on s'est pas quitté.
Ça fait combien de temps?
Ça fait 5 ans qu'on est ensemble et 2 ans qu'on est mariés.
Ben, quand vous dites on ne s'est pas quitté, vous n'arrêtez pas de vous quitter?
Oui, physiquement peut-être, mais
est-ce qu'on peut vivre heureux en vivant éloigné? Ou est-ce que c'est même peut-être la recette du bonheur?
La seule chose que je peux vous dire, c'est que mes parents sont mariés depuis environ 34 ans et que la plus grande partie de leur vie l'ont vécu séparés. C'est mon père qui voyage entre Paris et Tel Aviv et ma mère qui reste à Tel Aviv. Et pour eux, c'est le secret d'un mariage réussi. Alors je les prends comme modèle. J'ai toujours pas ce recul, ça fait pas assez longtemps, mais pour l'instant, ça a l'air d'être assez équilibré chez nous.
Question qui mérite une réponse sincère et directe. Est-ce qu'on peut être fidèle quand on est Amir et que sa femme est à Tel Aviv et qu'on est vedette en France?
On peut l'être. C'est pas
facile.
C'est pas les tentations qui manquent, c'est sûr.
C'est pas facile.
Faut être sincère. C'est pas simple.
C'est pas facile.
Mais
résister?
Je l'appelle, je garde le contact au maximum, on fait des FaceTime. C'est même pas une question d'être Amir en France et loin de sa femme, c'est qu'on a toujours besoin de ressentir une affection et qu'on se dit, nos amis qui ont leur femme à côté d'eux tout le temps, ils ont cette chance de pouvoir en profiter souvent et nous parfois on se sent seul et c'est sûr qu'on essaie de combler ce manque, alors peut-être qu'on est plus propice à la tentation, mais j'ai été fort jusque là et j'espère l'être encore pendant très 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 longtemps parce que j'aime ma femme.
Un autre mot?
Adolescence.
C'est une adolescence heureuse?
Oui, une adolescence heureuse, une adolescence je pense où je cherchais quand même à affirmer ma personnalité. Parfois par des moyens un petit peu excentriques, j'étais peut-être le clown de la classe ou le perturbateur. Je voulais qu'on me remarque.
À partir de quand vous vous êtes trouvé beau?
Avec une mère juive en général, c'est à partir de la naissance.
Est-ce que vous savez que vous avez un physique? Est-ce que vous savez que quand vous étiez déjà adolescent, que ce physique pouvait être un atout?
Oui, mais j'ai pas toujours été considéré comme comme un beau gosse parce que j'étais un peu plus gros avant et je suis passé par différentes périodes physiques. Je pense que ce que les gens aimaient en moi, enfin ce qui me permettait en tout cas de gagner le cœur des gens, c'était beaucoup moins physique et beaucoup plus dans la dynamique très positive, souriante, chaleureuse, marrante. Les gens m'aimaient bien. Et
alors,
les filles peut-être
je vous
aussi.
La pose autrement, parce qu'à l'adolescence, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est bien, on n'est pas bien, on est souvent mal dans sa peau. Enfin, c'est des périodes de, un petit peu de révolte. Est-ce que vous êtes plus beaucoup tout de suite ?
Me plaire beaucoup
oui.
tout de suite.
Parce que c'est important de bien vivre avec soi-même.
Je pense que plutôt oui. Mais c'est en fait aujourd'hui que je réalise que, à l'époque, beaucoup de choses que je faisais étaient pour qu'on me remarque et qu'on m'aime. Donc je me demande si je m'aimais, enfin si j'étais aussi entier avec moi que je le suis aujourd'hui. En tout cas, j'étais pas malheureux à l'époque. Je faisais beaucoup d'efforts, mais j'étais pas malheureux. Je ne me détestais absolument pas. J'aimais bien la personne que j'étais, ce que je dégageais. J'étais fier de moi. Mais je remarque aujourd'hui, avec le recul et peut-être les années qui sont passées, la maturité, que je me comportais pas comme quelqu'un qui a une assurance parfaite. Voilà.
Maintenant, ça va bien.
Je pense que mieux, oui, je suis plus serein.
On va écouter juste après une page de publicité qui va passer, dans un instant, Alma. Pourquoi vous avez choisi Alma ?
Parce qu'Alma est déjà une amie. Premièrement, et...
Ah donc ça y est, c'est la radio des amis maintenant.
Mais ouais, mais pourquoi pas, M. et Alma, c'est aussi une fille qui était présente à la genèse de mon album, et en parallèle, moi aussi, à la genèse du sien, parce qu'on a une équipe d'auteurs-compositeurs commune, et on a des amis en commun. Donc on est plus ou moins issus du même cru, la même famille d'artistes, j'adore ce qu'elle fait, en tant qu'artiste et aussi en tant que personne. Et puis cette chanson est juste splendide. Donc je sais qu'elle est diffusée sur MFM. Et je pense que vous misez sur une artiste qui a énormément d'avenir. Ça me fait plaisir de venir ici et de demander que vous la jouez. Voilà.
Une page de pub et on retrouve Alma.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Amir pour la sortie de son nouveau single On dirait, extrait de l'album Au cœur de moi.
Moi je dis tout, hein, quand je fais une émission de radio ou de télévision, comme ça c'est beaucoup plus simple. Donc là, viennent d'entrer dans le studio quand même deux personnalités extrêmement importantes. Hein.
Pour moi, oui.
Bah c'est... oui. Pour moi aussi maintenant, évidemment.
C'est ma mère et ma sœur qui sont de passage à Paris et je leur ai dit ce matin, je suis chez MFM. Est-ce que vous voulez venir faire un coucou ? Et elles sont ravies de le faire parce qu'elles n'ont pas l'habitude de vivre de près ma carrière.
Alors, votre maman s'appelle ?
Carmi.
Et ta sœur ?
Ma sœur, Élodie.
Élodie. T'as vu, j'ai dit vôtre en ce qui concerne la maman, parce que moi, j'avais une maman italienne et les mères juives, les mères italiennes se ressemblent.
C'est vrai.
Hein, et on a beaucoup de respect. C'est quoi le rapport avec la maman ?
Fusionnel. Très, très proche, très chaleureux. En fait, on quitte jamais le ventre de sa maman quand on est dans des familles pareilles. Mmh. Jamais à 100%.
Je le confirme.
Ouais.
Allez, un autre mot. Oh. Premier. C'est important d'être premier ?
Je pense que oui, mais premier dans quoi ? Ça dépend.
Bah oui, alors premier dans quoi ? Tu aimerais être premier dans quoi ?
En hébreu, je suppose qu'il y a certainement une phrase qui ressemble en français, mais en hébreu, on dit que c'est préférable d'être le dernier des lions que le premier des renards. Donc voilà pourquoi il faut toujours relativiser et comprendre que premier, c'est pas un but en soi. Il faut savoir ce qu'on représente quand on l'est. J'allais faire l'Eurovision, par exemple, sans viser la victoire. Et pourtant, c'est un concours et pourtant, il faut vouloir gagner. Mais dans ma tête, je me suis dit que la vraie victoire, par exemple, dans mon cas précis de l'Eurovision, ce serait de réconcilier le peuple français avec ce concours parce qu'il avait perdu sa brillance.
Carrément,
depuis
tu
des
as
années.
Pensé à ça.
Ah oui, absolument, absolument. Et puis, moi, je parle des mois de préparation avant l'Eurovision. Plus ça avançait, plus je voyais qu'il y avait un engouement qui allait en grandissant. Et ça m'en est de plus en plus optimiste à faire ce pas. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que ça va durer ? Moi, je voudrais savoir que l'année prochaine, puis l'année qui va suivre, les Français vont continuer à suivre ce concours, tout comme beaucoup d'autres pays en Europe où c'est un moment phare de la télévision chaque année. Je voudrais savoir que ça se passe ici aussi, parce que ça mérite, c'est un bon divertissement.
Un autre mot. Allez, c'est slide. Confession. Qui te connaît vraiment ? Qui peut dire ? Évidemment, je parle devant ta maman.
Ah, c'est vrai, mais je pense qu'elle peut déjà. Elle me connaît.
Qui connaît tous les côtés d'Amir ? Les bons, les mauvais, les sourires, les enthousiasmes, mais aussi les pleurs, les chagrins.
Je peux citer quelques personnes, mais à la base, je ne suis pas quelqu'un de très extraverti. Ça veut dire que...
Alors, je la pose autrement, la question. Si ça n'allait pas à 2 heures du matin, que ce soit à Tel Aviv ou à Paris, ça, tu sais ça, qui appeler ?
J'ai vraiment... Ça va sembler peut-être mensonger de dire ça, mais c'est très sincère. J'ai pas ce genre de moment. Mais imaginons que ça m'arriverait, je pense que mon premier réflexe serait d'en parler à mes cousins, parce que ce sont mes meilleurs amis et qu'ils sont peut-être moins proches de moi que ma mère ou ma femme, mais en tout cas ils seront certainement un peu plus objectifs, je suppose, dans leur écoute et dans leur jugement. C'est avec eux que je passe la plupart de mon temps, socialement parlant.
Tu n'es jamais triste?
C'est pas que je suis jamais triste, c'est que j'ai mes propres remèdes contre la tristesse.
Lesquels?
J'arrive à l'éliminer assez rapidement.
Lesquels?
Je sais pas, je regarde toujours la moitié pleine du verre, j'essaye de travailler toujours sur un... Enfin, depuis que je suis gosse, hein, c'est pas une méthode New Age, pas du tout, c'est vraiment ma façon de voir les choses depuis toujours, relativiser, comprendre que tout passe et le temps est un bon remède quoi qu'il arrive. Donc vraiment les moments où je suis... Ben, les moments où j'ai vraiment besoin que quelqu'un me sauve, m'aide, un soutien immédiat sont très 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 rares.
Et toi, tu es un bon ami pour les autres ?
Je pense que oui, mais ça provient du fait que je vais toujours leur transmettre les mêmes messages que je me transmets à moi-même, leur dire
tu
que...
Tu crois en quoi ?
En beaucoup de choses.
La question, elle est claire.
Je crois en Dieu, déjà. Ce qui aide quand on a envie de positiver par rapport à la vie, de manière
générale.
Tu l'as
rencontré déjà ? Parce que je cherche la personne qui l'aurait rencontré.
Non. Si j'étais schizophrène, peut-être, mais on le rencontre pas, on le ressent. Certains appelleront ça une bonne étoile, mais au final, je pense que on a tous un élément vers lequel on lève nos yeux et on se dit l'espoir provient de cet élément.
Il y a, comme nous sommes ici à MFM, que c'est une radio de chansons françaises, il y a un grand poète et chanteur français qui s'appelle Charles Trenet, on va toujours le dire au présent et pas au passé, qui disait « Je ne sais pas si j'ai cru en Dieu, mais en tout cas, Dieu a cru en moi.
» C'est très beau, c'est très très beau.
Dieu croit en toi.
J'ai envie de penser que oui.
Bah oui.
Est-ce qu'on a nous-mêmes le vrai baromètre pour savoir ce que ça représente, Dieu croit en nous? Je sais pas. En tout cas, il m'a rendu heureux, ça c'est sûr.
Amir, c'est une chanson qui s'appelle « J'ai cherché ».
Oui.
Et t'as trouvé?
Pour le moment, oui, oui. Je peux dire que oui.
T'as trouvé quoi?
J'ai trouvé plein de belles choses, je sais pas, j'ai trouvé le bonheur, la joie, dans les paroles
chante,
de la chanson.
Ça se chante. Est-ce que le bonheur se chante plus que la tristesse?
Mais même la tristesse est une forme de bonheur. Victor Hugo disait que la mélancolie est le bonheur d'être triste, c'est ça?
Voilà.
Samedi Sabatier, l'interview, des mots pour le dire sur MFM Radio.
Des mots qui sont sur une tablette, et à moi de faire des questions et à Amir de faire des réponses.
Oh.
Sourire, oui. Alors, on a mis le mot sourire parce que ça fait partie du personnage. Et moi, je vais être un petit peu, non pas pervers, je suis incapable de l'être, ni insidieux. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a un moment donné, le sourire, parce qu'on me l'a beaucoup reproché aussi à moi quand je commençais ma carrière d'animateur, est-ce que c'est pas une façade?
Non. Ça pourrait l'être, c'est vrai. Pour certaines personnes, je pense qu'on ressent quand un sourire est une façade et quand il est sincère.
Est-ce que tous les jours, quand tu te lèves, t'as envie de sourire? Moi, j'avoue que non, hein.
Non. Mais ouais. Quand je vois des gens, en général, étant donné que la plupart des gens m'apportent des bonnes nouvelles, je souris. Ouais. Et quand c'est une mauvaise nouvelle, je souris parce que ça me fait rire.
Quel sourire pour un chirurgien dentiste? Impeccable.
Ouais. Il y a un lien irrévocable. Ouais.
Allez, un autre mot. Patrick Bruel.
À chaque fois que je vois un mot, je dis « Oh !» C'est vrai qu'il y a des surprises. Patrick Bruel, ouais.
C'est quelqu'un que tu connais?
C'est quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré.
Et qui t'apprécie beaucoup?
Qui m'apprécie et qui m'a permis de... On peut dire qu'il m'a mis le pied à l'étrier. Parce qu'en 2008, alors que je suppose qu'en France, il devait y avoir peut-être 20 personnes qui me connaissaient, j'ai traduit une de ses chansons que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Je te le dis quand même », en hébreu. Et cette traduction est arrivée à lui à travers mon manager qui s'est dit « si tu l'as traduite et que tu l'as enregistrée, autant le faire savoir à Patrick Bruel ». Et Patrick Bruel, qui a été sensible à cette version-là, vient faire un concert à Tel Aviv 2 mois plus tard et m'invite à monter sur scène avec lui. Alors qu'il ne m'a pas auditionné, qu'il ne m'a pas écouté en live, qu'il ne savait pas à quoi je ressemblais. Mais il a été bienveillant et il s'est dit ça peut être un beau clin d'œil sur mon concert. Et en effet, je suis monté sur scène. Il a même tenu à chanter une partie des paroles en hébreu que moi j'ai écrites. Il a permis à un jeune chanteur ambitieux, qui était à l'époque aussi très 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 impliqué dans ses études de dentisterie, de vivre un moment de rêve, un instant de rêve qui est resté gravé dans ma mémoire, inoubliable. Et il s'est surtout positionné dans ma tête, dans mon esprit, dans mon cœur, ce Patrick Bruel, comme quelqu'un qui ouvre les portes à des jeunes artistes, qui est généreux de sa notoriété.
Plus généralement, tu as été bien accueilli par la télévision, le showbiz. Est-ce que tu trouves quand même que les artistes sont accueillants, sont pas trop jaloux les uns les autres?
Jusque-là, je peux dire que globalement, oui. Après, il y a certainement des particularités parce qu'on peut pas généraliser ouais. à 100%, mais je pense que ce métier est un métier plutôt bienveillant, malgré ce qu'on en dit, hein, parce que le show business a peut-être une image...
Il y a des gens bien quand même.
Ah oui, mais beaucoup. D'ailleurs, je suis en face de quelqu'un de bien.
Non, je dis pas ça pour ça, parce que je pense que comme dans tous les milieux, il faut rectifier le tir. Évidemment, il y a des gens insupportables, jaloux, enfin, etc., etc. On va pas en parler, mais il y a quand même des gens bien, il faut le dire.
Absolument.
Et donc il faut
l'apprécier.
Ça mérite de continuer. Allez, un autre mot.
Rêve.
Alors, rêve au pluriel, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai devant moi un homme qui a réalisé ses rêves ou un homme qui a encore plein de rêves?
C'est les deux. J'ai réalisé une partie de mes rêves, j'en ai encore beaucoup dans ma tête, et c'est mon moteur. C'est ce qui me motive à continuer, c'est ce qui me motive à en vouloir encore, parce que si j'avais plus de rêves, je quitterais ce...
Alors, quelle carrière dans tes rêves aimerais-tu faire? Est-ce que tu t'es projeté sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
Absolument, je suis même projeté sur les 70 prochaines années, et quand on me pose cette question...
Quel âge as-tu?
J'ai 32 ans.
70 prochaines années, c'est bien, c'est ouais. très optimiste. Mais j'aime
je
bien,
pense
moi.
Qu'on a une génération
j'aime,
qui vivra longtemps.
J'aime bien. Alors vas-y, raconte-moi, t'as vu jusqu'à 102 ans.
Pour moi, mon objectif est de tout faire pour que cette carrière dure, pour continuer à intéresser les gens sur le long terme. Quand on me demande ce que je me souhaite, c'est pas forcément que ça grandisse, mais que ça perdure. Pour moi, même si on maintient un rythme comme celui que j'ai aujourd'hui, je vais pas dire que c'est un rythme qui me déplaît, bien sûr c'est très actif et puis il y a beaucoup de belles choses qui se passent, mais je me focalise beaucoup plus sur la longueur que sur l'élargissement de l'impact. J'espère que c'est clair.
C'est très clair.
Je voudrais.
C'est envie de durer, c'est envie et de laisser des traces.
Mais de le mériter, hein.
Je n'en doute pas.
Voilà, je cherche pas à être quelqu'un qui dure inutilement.
Non.
Je voudrais pas me forcer sur les gens. Je voudrais vraiment qu'il y ait cette espèce de relation, comme quand on espère rencontrer une femme ou un homme avec qui on vivra longtemps en aimant le faire.
Ça c'est fait déjà.
C'est la relation que je me souhaite avec mon
croix. C'est fait. Ok. Combien d'enfants tu aimerais?
Je sais pas. Ça c'est une question difficile pour moi. Je pense que.
Pas pour vous.
Ouais, c'est vrai que c'est pour nous. Au départ, j'avais des rêves, je voulais avoir, on parle de rêves d'ailleurs, je voulais avoir 10 enfants.
Elles comptent, hein.
Ouais. Je pensais à 10 enfants au début, je pensais à une famille très nombreuse. Et aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément le nombre qui est important, c'est ce qu'on arrive à leur transmettre. Et si on est fier d'eux, il peut y en avoir moins, mais...
Oui. Alors attends, les 70 prochaines années, les 10 prochains enfants, je vois que quand on aime, on ne compte pas. Bon, on va avoir Claudio Capeo qui va nous rendre visite par l'intermédiaire de la musique dans un instant. Pourquoi? C'est ton choix?
Claudio est un artiste que j'ai découvert il y a peu de temps parce qu'il a fait The Voice dans la dernière saison et qu'il a brillé, même s'il n'a pas fait long feu dans l'émission. Et à mon avis, c'est parce qu'il était peut-être trop original pour ce programme. Et puis il a commencé son bout de chemin. Lui aussi a rejoint les mêmes équipes d'auteurs et de compositeurs avec qui je travaille. Donc naturellement j'ai une sensibilité à ses chansons. Et c'est un jeune homme bourré de talent. Il joue de l'accordéon. Il a une voix atypique, exceptionnelle. Et je le croise très souvent sur des plateaux d'artistes. Et voilà, je pense qu'il a une carrière qui est très prometteuse. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
Claudio Capeo, juste après cette page de pub.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Amir pour la sortie de son nouveau single On dirait, extrait de l'album Au cœur de moi.
Allez hop, un autre mot. Je fais une question avec le mot croyance. On a parlé de conviction tout à l'heure. On a parlé que tu croyais en Dieu, etc. Tu as un rite quotidien sur cette croyance, non ?
Oui, oui, j'ai été éduqué dans une famille traditionnaliste et ce sont des repères importants qui me...
Qui t'aide à vivre ?
Qui m'aide à vivre, oui, ça apporte un schéma très équilibré, très peut-être répétitif, mais je pense que c'est...
Tu vis bien avec ça ?
Je vis bien avec ça, oui, ça m'ajoute des repères importants, ne pas oublier d'où je viens, ne pas oublier ce qu'on m'a enseigné, ce qu'on m'a transmis, c'est important pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui impacte ma journée physiquement comme quand je me brosse les dents et je me sens plus propre et à une meilleure haleine. Non, quand je prie par exemple, je le fais parce que c'est spirituellement que ça me remplit, que si je le fais pas, j'ai l'impression d'être moins reconnaissant envers
D'accord.
la journée qui m'attend.
D'accord. Et tu pries quotidiennement?
Oui, un petit peu, mais okay. Mais c'est ce qu'on m'a enseigné depuis que je suis petit.
Allez, un autre mot. On dirait. Alors allez, on dirait. Moi, ce que pensent les gens de toi, ce que disent les gens de toi, ce que dit la presse de toi, est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ou fort de ta conviction, de ton chemin, tu traces comme tu penses devoir tracer, quoi.
Je lis ce qui est dit sur moi parce que ça m'intéresse. J'y prête une attention très limitée. C'est intéressant de savoir quel est le regard. Qu'est-ce qu'on transmet si on arrive à transmettre un message positif? Et ça se reflète souvent par les retours des fans, les retours de mon public, les retours de la presse, etc. Globalement, pour l'instant, je pense que tout est assez clément avec moi et je suis content que ça se passe comme ça. Mais si de temps à autre, j'ai des choses qui sont pas très agréables à lire, j'en fais pas une grande histoire. Hein. J'avance et je pense que je suis assez sûr de la personne que je suis et de ce que j'ai envie de transmettre aux autres. Donc ça me déstabilise pas vraiment.
Allez, un autre mot. Mensonge.
Yes.
Ça te fait rire, mensonge.
Bah, c'est mignon. Tout à l'heure, c'était est-ce que le sourire est une façade? Maintenant, on va voir où est le mensonge.
Non, mais moi, ma question, elle est simple sur le mensonge. Parce qu'on dit qu'il faut jamais mentir, c'est ce qu'on apprend. Hein. Mais est-ce que tout compte fait dans la vie, quelquefois, il n'y a pas des mensonges qui sont souhaitables? Est-ce qu'il faut dire toute la vérité?
Pas forcément. On m'a appris que si un mensonge peut apporter la paix, il faut utiliser ce moyen parce que c'est mieux de mentir et d'avoir la paix que de dire la vérité et d'avoir la guerre.
Donc, est-ce que tu serais du genre à cacher certaines choses à ton épouse, par exemple, pour ne pas lui faire du mal?
Je pourrais le faire.
Je dis pas, est-ce que tu l'as fait?
Voilà,
est-ce
non, que, mais je, voilà. Je pense que je pourrais le faire, pas qu'à elle, je veux dire, je suis pas premièrement, je pense que c'est très 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 important de réfléchir très 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 attentivement avant de mentir d'ailleurs. Si on a décidé de le faire, il faut pas en abuser. Si on a décidé de le faire et qu'on est sûr que par ce petit écart de conscience, on arrivera à un résultat positif et à installer ce que j'ai appelé tout à l'heure la paix, mais une bonne entente, installer une bonne atmosphère et que l'impact ne sera pas catastrophique, et ben parfois on est obligé de le faire.
Est-ce que t'as déjà menti à ta maman qui est dans le studio?
Oui, certainement. Mais ça, j'ai dû le faire quand j'étais petit parce que ça me...
Demande-lui
ça...
pardon tout de suite, allez.
Je te demande pardon, maman. Ça m'évitait quelques petites embrouilles.
Et de temps en temps, ça, c'est pas grave, hein, justement, quand ça peut arranger les choses.
C'est ça, mais de manière générale, je pense que je suis sur un bon 99,9% de vérité. Je préfère toujours affronter la vérité, la réaction des gens à la vérité, même si elle est dure. Mais je considère ça comme un recours de détresse. Parfois, il faut cacher la vérité. On est obligé de le faire.
Allez, dernier mot.
Jennifer.
Yes. Un mot sur Jennifer, un mot.
Très simplement, elle s'est retournée en premier quand j'ai chanté et elle m'a ouvert la porte d'un nouvel avenir.
L'émission va se terminer. Alors évidemment, tu fais partie de ces personnages avec qui on a envie de rester encore au moins une heure de plus.
C'est gentil.
Merci de ta sincérité. Le dernier disque que tu as choisi, c'est Christophe Maé.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que Christophe Maé a toujours été de ces artistes que j'admire. Quand on me posait des questions, quelles sont tes influences dans la musique française, je le choisissais. Et puis un beau jour, à la fin de l'année 2015, je me retrouve signé dans le même label que lui. Et on se croise et on commence à se connaître. Et puis il devient beaucoup plus proche qu'avant. Après, il s'avère en plus qu'on habite dans le même quartier, donc je le croise dans la rue, et puis c'est devenu soudain, c'est parti de cette personne que j'admire, dont je suis fan, j'achète ses disques, je vais le voir en concert, et subitement, c'est quelqu'un qui est un petit peu mon ami, et voilà pourquoi je voulais lui faire ce clin d'œil.
J'étais très content de te connaître, un petit peu, puis j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir.
Avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi, Patrick.
Merci beaucoup.